Les séminaires du Collège de France.
C'est donc avec grand plaisir que j'introduis la présentation de Francesco en présentant Francesco. Donc Francesco Massa a suivi une formation en philosophie et lettres, philologie et lettres classiques à l'université de Pavie. Puis il a présenté une thèse en co-tutelle entre son alma mater, et l'école pratique des hautes études. Thèse qui a été publiée en 2014 sous le titre « Tra la vigna e la croce », donc c'était une thèse sur la figure de Dionysos dans les discours littéraires et figurés chrétiens entre le 2e et le 4e siècle. Ensuite, Francesco a été chercheur postdoctoral à l'Université de Genève, à Paris, ici, dans le cadre du LabEx Aztec, à Aix-en-Provence. Il a ensuite obtenu un projet de recherche du Fonds national suisse de la recherche, projet appelé Ambizione à Genève. Et aujourd'hui, il est passé à l'Université de Fribourg, contrairement à ce que le programme vous montrait, mais le passage s'est fait entre la composition du programme et aujourd'hui. Et à Fribourg, Francesco est désormais professeur assistant à l'issue d'un autre concours du Fonds national suisse de la recherche, un concours encore plus compétitif que le précédent sous le titre d'Excellence, qui est en quelque sorte, si je puis dire, un équivalent des ERC Starting Grant, mais à l'échelle de la Suisse. Et donc c'est une très belle reconnaissance. Et dans ce contexte extrêmement favorable, Francesco va pouvoir poursuivre ses recherches scientifiques qui sont fondées sur des intérêts nombreux. Et si je dois en synthétiser rapidement la portée, je dirais qu'il s'agit toujours d'histoire des religions antiques, mais avec un accent qui est porté depuis la thèse de doctorat sur cette période de cohabitation religieuse entre ce qu'on va appeler les polythéistes plutôt que les païens et les premiers chrétiens, et notamment l'appropriation par les chrétiens du vocabulaire des anciens grecs, problématique à laquelle nous allons évidemment être confrontés ici aussi, mais que Francesco a notamment poursuivi dans une voie extrêmement féconde autour des cultes à mystère et la réappropriation par les chrétiens du vocabulaire mystérique. Et juste encore un mot sur une recherche très, très, très intéressante sur la typologie des religions telles que les premiers chrétiens, les pères de l'Église, l'ont mise en place et dont nous sommes encore finalement peu ou prou les héritiers. Et donc le décodage de cet héritage fait partie des démarches de Francesco qui sont particulièrement fécondes et qui donnent à penser à tous ceux qui intéressent ces questions. Et donc, Je m'en tiens là, même si je pourrais encore continuer longtemps, vu son dossier, et je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Francesco.
Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui à être ici. Je remercie sincèrement Vinciane Pirandelforge pour son invitation. C'est évidemment un honneur de pouvoir parler dans un lieu ô combien prestigieux. La question abordée tant dans les conférences que dans les séminaires Dieu, Héros, Daimones a mis au centre de l'enquête l'organisation du monde divin grec. Or, la question de la catégorisation du monde divin polythéiste et par conséquent, de son organisation s'inscrit également dans les préoccupations des auteurs chrétiens des premiers siècles de notre ère. Pour les auteurs chrétiens de cette époque, les récits mythiques et les pratiques rituelles traditionnelles du monde romain sont autant de lieux où s'exprimait l'action des daimones. Dans les pages de leurs ouvrages polémiques, le monde religieux polythéiste apparaît peuplé de mauvais démons qui influencent la vie des hommes et déforment la vérité chrétienne. Je considère que ces auteurs chrétiens portent sur les polythéismes de leur époque un regard qui est à la fois proche et éloigné. Proche puisqu'ils appartiennent au monde culturel de leur époque et qu'ils partagent souvent la même formation rhétorique et philosophique, donc la même paideia. éloignés puisqu'ils construisent leurs identités en opposition aux religions traditionnelles de l'Empire et qu'ils ne cessent de souligner la distance qui existe entre la vraie religion et la religion des autres. Afin d'explorer ce double regard, j'ai choisi un petit corpus d'auteurs chrétiens de langue grecque, dont les ouvrages, qui datent tous des années 150-170, abordent des questions relatives aux religions traditionnelles de l'Empire, que ce soit dans des buts apologétiques, polémiques ou protreptiques. À partir de ces textes, mon intervention propose d'explorer le regard chrétien sur l'architecture des polythéismes du monde romain, et en particulier le regard sur la religion grecque du IIe siècle de notre ère. Le IIe siècle est un moment central pour mon propos, car il s'agit d'une période pendant laquelle on constate une mise en valeur du démonique, comme l'a souligné déjà Peter Brown dans son livre « The Making of Late Antiquity » paru en 1978. À cette époque, la présence, le rôle et l'action des daimones figurent de plus en plus au cœur des débats savants. Forgé comme un outil de la controverse avec les païens, il me semble que les daimones deviennent même une manière de penser et de parler des religions des autres, en d'autres termes, d'organiser le monde divin polythéiste en proposant des classifications. Ces classifications, d'une part, désignent, circonscrivent, voire hiérarchisent des pratiques et des croyances. De l'autre, elles alimentent et favorisent les processus de comparaison et de systématisation des divers savoirs religieux. Il ne faut pas oublier que ces questionnements, pour ainsi dire plus théoriques, d'organisation du monde divin, auront des retombées concrètes dans les sociétés du monde romain. Sur le terrain, comme l'a très bien montré David Frankfurt, pour les 4e et 5e siècles, la confrontation aux daimones se fait réelle car ces entités interviennent dans la vie des individus et des collectivités. Deux modèles, me semble-t-il, influencent la pensée des auteurs chrétiens du IIe siècle de notre ère dans leur traitement de la démonologie païenne. Le premier est le modèle, évidemment, biblique, que Anna Angelini nous a très bien montré. Et donc, je ne soulignerai qu'un seul aspect, à savoir la citation très présente dans plusieurs ouvrages chrétiens du verset tiré du livre des psaumes, que Anna a également cité, « Pantes oiteoi ton et non daimon », donc « Tous les dieux des nations sont des démons ». Le deuxième modèle est celui de la philosophie et notamment de la pensée platonicienne, plutôt dans la version qu'on appelle aujourd'hui le médio-platonisme. Si nous prenons comme point de départ les réflexions de Plutarque, Maxime de Tyr ou même Apulée, très bien étudiées dans le livre d'André Timotine que je vous ai cité l'écran, nous remarquons que le positionnement théorique des auteurs chrétiens n'est pas loin de celui des auteurs platoniciens de la même époque. Dans le traité sur la disparition des oracles, par exemple, donc de Plutarque, nous lisons dans la bouche de Cléombrotos, l'un des personnages du dialogue de Plutarque, qu'il y a des êtres qui sont presque à la frontière entre les dieux et les hommes, vous le voyez, et Metzorio Theon Kai Anthropon, et qui sont soumis aux passions mortelles, passe tsneta, et aux mutations fatales. Ces êtres, d'après les coutumes des pères, sont considérés comme des daimones et sont vénérés sous ce nom. Maxime de Tyr, quant à lui, associe les divinités traditionnelles grecques aux daimones en disant qu'elles sont inférieures aux dieux supérieurs de type platonicien. Maxime considère que les entités que les hommes voient ne sont pas des dieux, mais des daimones. Donc ces conceptions d'entités inférieures aux dieux supérieurs, soumises aux émotions humaines, sont le socle sur lequel les auteurs chrétiens fabriquent l'image des dieux du polythéisme. Il ne faut pas oublier que les auteurs chrétiens de langue grecque du IIe siècle s'auto-représentent tout d'abord comme étant des philosophes et définissent le christianisme tout d'abord comme la vraie philosophie. Comme on l'a vu pour le judaïsme hellénistique, les auteurs chrétiens de cette époque ne nient pas l'existence des entités que les païens, les polythéistes, appelaient les théoi. Ce qu'ils refusent, c'est de leur attribuer un statut divin. C'est une question de définition ontologique qui produit une controverse sur les diverses manières de nommer le monde divin. Le premier auteur que je vous propose d'analyser, Justin, est très explicite sur le problème de la dénomination du divin. Né à Flavia Neapolis et actif à Rome à la moitié du IIe siècle, comme maître d'une école qui était sans doute centrée sur l'enseignement des écritures sacrées, Justin adresse une apologie à l'empereur Adrien le Pieux et à ses deux fils adoptifs, Marc Aurèle et Lucius Verus, vers 153 de notre ère. L'enjeu de l'ouvrage est de persuader les amants du vrai d'accueillir les enseignements du Christ. La question des catégories pour représenter le monde divin est au centre de la réflexion de Justin, comme on le voit dans le premier passage que vous avez à l'écran. Mais un nom attribué au Père de l'univers n'existe pas, puisqu'il est inengendré. En effet, si quelqu'un a reçu un nom, il a le nom attribué de quelqu'un plus ancien. Père, donc pater, théos, Dieu, créateur, vous voyez à l'écran, Christès, curios, seigneur et despotes, maître, ne sont pas de noms, mais des désignations tirées de ses bienfaits et de ses œuvres. Le sens du général du passage est clair. Justin veut dire que les chrétiens ne font pas comme les grecs lorsqu'ils attribuent des dénominations à leur Dieu. Le vocabulaire employé, toutefois, par Justin, est particulièrement intéressant. Tout d'abord, il y a « onoma ». Justin explique que Dieu le Père n'a pas de nom. Il suit ici une tradition philosophique qui remonte à Platon et qui avait été confirmée par la pensée du judaïsme hellénistique. Ensuite, il y a les « pros reis », appellation ou désignation, donc « pater »,« theos », »,« kurios », etc. Le terme, encore une fois, est notamment utilisé dans des contextes philosophiques depuis Platon, mais il sera aussi repris, toujours dans un contexte platonicien, par Philon d'Alexandrie, et passera ensuite dans la littérature chrétienne pour désigner les appellations de Dieu. Enfin, il y a le prosagoreuma, c'est-à-dire théos, qui est le terme technique de la rhétorique, donc un terme vraiment technique de la rhétorique, et qui désigne la parole que l'on adresse à quelqu'un ou même la salutation. Mais le théos, nous dit Justin, n'est pas un onoma, c'est une doxa. Comme en témoigne ce passage, Justin occupe une place privilégiée, nous permettant d'appréhender les conceptions chrétiennes du polythéisme grec. D'après Justin, le monde divin des païens n'est autre, et on le verra, qu'une copie démonique de la vérité. Et l'auteur construit sa réflexion sur cette question de la mimésis. Il était conscient du fait qu'il était impossible de montrer la vérité chrétienne sans expliquer les raisons des analogies entre les histoires des divinités grecques et l'histoire de Jésus. On pourrait aller jusqu'à dire que Justin met en place une sorte d'analyse comparative entre les traditions narratives grecques et chrétiennes. Justin propose une théorie qui fait des dieux du polythéisme l'invention des mauvais démons, qu'il appelle parfois kakoi, parfois phaoloi. Dans ce cadre, Justin affirme que les noms des dieux ne sont que les noms des démons, et vous le voyez à l'écran. Nous n'honorons pas non plus, par de nombreux sacrifices et des guirlandes de fleurs, les êtres que des hommes ont façonnés et placés dans les temples en les appelant des dieux. Car nous savons que ce sont là des objets inanimés sans vie, qui ne possèdent pas de forme divine. Nous ne croyons pas en effet que la divinité est une forme semblable à celle que d'aucuns prétendent avoir imitée afin de l'honorer. Mais nous croyons que les dieux portent les noms, les onomata, et offrent les apparences schémata de ce mauvais démon, Kakon Daimonon, qui se sont manifestés autrefois. Justin reprend ici évidemment l'idée des idoles divines fabriquées par les hommes en associant le culte des images divines à la question des kakoi daimones. Les deux termes clés ici sont, me semble-t-il, onomata d'une part et schémata de l'autre, qui sont les éléments qui composent l'identité de ceux que les païens appellent théoi, alors qu'ils ne sont que de mauvais démons. Onomata et schemata construisent un portrait des dieux polythéistes très figé, où les théories correspondent aux images vénérées par les hommes. À chaque nom, les polythéistes feraient correspondre un schema, un habitus, pour le dire en latin, à savoir une forme, une apparence, une manière de représenter. On voit apparaître dans ce passage la conception et la représentation des dieux antiques personnalisés quelque part et associés à une fonction statique, ce qui sera la base des manuels des mythologies, du moins jusqu'à la moitié du XXe siècle, voire jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, Justin montre qu'il connaît le mode de fonctionnement du polythéisme antique lorsqu'il met l'accent sur la relation étroite entre les daimones, les théories païens, et les sacrifices, comme c'était déjà le cas dans la première lettre aux Corinthiens de Paul. Nous avons un exemple ici du double regard proche et éloigné des auteurs chrétiens sur le polythéisme. Parce que d'après Justin, les chrétiens n'affirment rien de nouveau lorsqu'ils soutiennent que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel. Tous ces aspects se trouvent tels quels dans les récits mythiques païens. Ainsi, Justin déroule la liste des fils de Zeus, dont les histoires présentent des points communs avec l'histoire de Jésus. Donc Hermès, Asclépios, Dionysos, Héraclès, les Dioscures, Persée, Bellérophon, etc. Seule figure des noms masculins, car Justin souhaite mettre en évidence évidemment les analogies avec le Christ. N'oublions pas que le but est de prouver ce que les chrétiens affirment de Jésus n'est pas nouveau. Mais juste après avoir lui-même conduit le lecteur à percevoir les analogies entre Jésus et les fils de Zeus, Justin est évidemment obligé de prendre ses distances, en soutenant que ce sont les phaoloi daimones, les mauvais démons, qui ont accompli ces actions. D'après Justin, ce que les chrétiens ont appris du Christ et de ses prophètes est la seule vérité, évidemment. Mais cette vérité a été menacée par un groupe de démons qui a mis en œuvre une grande opération de falsification et de contrefaçon du monde chrétien. Et on le voit dans les passages suivants. En fait, puisque les démons avaient entendu que le Christ annoncé par les prophètes aurait dû venir et que les impies auraient été punis par le feu, alors ils se proposèrent d'inventer plusieurs fils de Zeus en croyant obtenir que les hommes considèrent l'histoire du Christ semblable aux inventions racontées par les poètes. Ces choses se sont diffusées parmi les Grecs et parmi tous les peuples, en particulier là où, selon l'annonce des prophètes, on aurait cru au Christ. Dans l'interprétation des analogies proposées par Justin, les démons étaient au courant de toutes les prophéties bibliques et ils inventèrent l'ensemble des récits mythiques concernant les fils de Zeus pour que l'histoire du Christ se confonde avec les multiples histoires des dieux et ne puisse pas être reconnue comme la seule digne de foi. Pourtant, le projet des daimones n'arriva pas à remporter un succès complet, car ils ne comprirent pas entièrement les mots des prophètes et ils créèrent une série de récits chargés d'erreurs. La mission de Justin est justement de lever le voile sur les erreurs des daimones. Dans cette perspective, il explique par exemple que les miracles et les guérisons accomplis par Asclépios ne sont que de faux miracles et de fausses guérisons parce qu'ils sont le résultat de la contrefaçon des démons. Je pense qu'il faut comprendre cette lecture de Justin sur la base du contexte historique de la moitié du IIe siècle. Donc à cette époque, les auteurs chrétiens devaient essayer de faire accepter la figure du Christ dans le panorama religieux de l'Empire. Le but premier qu'ils poursuivaient était de rendre l'image du Christ recevable aux yeux des Grecs et des Romains. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le cadre d'une apologie. C'est la principale raison, me semble-t-il, pour laquelle Justin insiste d'abord sur les analogies entre Jésus et les fils de Zeus. Mais qui sont donc ces daimones que Justin caractérise par plusieurs adjectifs renvoyant à leur statut négatif, donc je vous ai dit phaoloi, kakoi, etc. La réponse est donnée par l'auteur lui-même. En se fondant sur la tradition biblique, il rapporte que des anges se révoltèrent contre Dieu et s'unirent avec des femmes mortelles. Et les enfants nés de ces unions, dit Justin, sont les êtres que l'on appelle les démons. Cette tradition, avec quelques variantes, devient une interprétation partagée par les auteurs chrétiens de cette époque. Tassien, auteur né en haute Mésopotamie et sans doute élève de Justin à Rome, reprend le récit de la trahison des anges. Le discours aux Grecs, rédigé probablement entre 165 et 172, est une polémique agressive contre la païdéia grecque et contre les Grecs eux-mêmes qui sont définis comme ceux qui vénèrent les daimones. À la base du discours des Tassiens, il y a l'idée que la totalité du savoir grec est le résultat d'emprunt au savoir barbare. Donc il y a toujours cette idée d'une imitation des Grecs. Hein. C'était d'abord l'imitation des démons, maintenant c'est l'imitation du savoir barbare. D'après Tassien, le christianisme doit être compris comme une sorte de philosophie barbare. Et l'antiphilosophie que Tassien propose est une stratégie polémique dans un monde culturel dominé évidemment par la philosophie grecque et ses écoles. Après avoir résumé les fondements de la doctrine chrétienne sur l'unicité de Dieu et sur l'action du Verbe, Tassien explore le monde religieux des Grecs. Comme chez Justin, son point de départ est donc la tradition biblique. Et vous le voyez dans ce passage, à raison de sa désobéissance et de sa folie, le premier créé, ô Protogonos, fut nommé démon, ainsi que ceux qui l'imitèrent. Ces images trompeuses se constituèrent en armée de démons et, à cause de leur libre arbitre, furent livrés à leur sottise. À la différence de Justin, cependant, Tassien n'a fait aucune allusion aux unions entre anges déchus et femmes mortelles qui auraient donné naissance aux démons. En revanche, il développe l'image de l'armée démoniaque guidée par l'être qui fut créé en premier, le Protogonos, qui n'a pas de nom. Tassien intègre le polythéisme grec à cette représentation du monde démonique, et c'est ça qui est intéressant, en faisant de Zeus celui qui guide les démons, le chef des démons, comme vous le voyez dans le passage suivant. En effet, les récits par lesquels ils ont manifesté aux hommes leur nature, leur ont servi à pousser leurs auditeurs à des comportements semblables. Encore l'idée de l'imitation. Hein. Sans compter que les démons eux-mêmes, avec Zeus, leur chef, sont tombés sous le joug de la fatalité, dominés qu'ils sont par les mêmes passions que les hommes. Le critère de l'imitation revient également dans ce passage dans lequel les démons et les hommes partagent les mêmes passions, émotions, les mêmes pathés. On retrouve là donc un élément de la définition de Daimones contenu dans le traité sur la disparition des oracles de Plutarque. Dans la perspective des Tassiens, le polythéisme des Grecs est une conséquence du rapport entre les hommes et les démons. Vous le voyez dans ce passage. Tels êtes-vous aussi, Grecs, éloquents dans vos propos, mais dotés d'un jugement étrange, et vous avez préféré l'exercice du pouvoir à plusieurs plutôt qu'à un seul, parce que vous pensez suivre les démons comme s'ils étaient forts. Tassien oppose ici la monarchie divine du dieu chrétien à un pouvoir polythéiste dispersé. Et nous avons là une représentation précise de l'architecture du monde divin de l'époque. Et encore une fois, ce n'est pas tout à fait une invention chrétienne. Philon d'Alexandrie utilisait le premier, nous le savons, le terme polythéos afin de l'opposer à la monarchie divine présentée dans le premier commandement du Décalogue. Et la question de l'organisation du pouvoir divin deviendra encore plus importante au IVe siècle lorsque les chrétiens essayeront de montrer que le christianisme s'adapte mieux que le paganisme au contexte politique de l'Empire. Pour ne prendre qu'un exemple, dans la préparation évangélique, Eusèbe de Césarée utilisera le terme polythéos en lien avec la question de la poliarchia. Cela fait partie de la conception politique et théologique d'Eusèbe, la multiplicité des gouvernements dans le monde païen et le résultat du polythéisme. C'est pourquoi la mise en place de l'Empire et de la Pax Romana a contribué à la diffusion du christianisme dans le monde méditerranéen. Donc, si le discours de Tacien vise notamment à discréditer les croyances et les pensées grecques et à ancrer le discours sur le polythéisme et la structure et l'organisation de son pouvoir, quasiment dans les mêmes années, un autre auteur chrétien, Théophile d'Antioche, essaye aussi de comprendre la construction des panthéons grecs. Théophile d'Antioche est d'origine syrienne et son ouvrage « Les livres à Autolycos » est traditionnellement daté des années 170 et est adressé à un païen cultivé, un certain Autolycos, qui partage la païdéia de l'auteur. Autolycos est évidemment un personnage fictif qui sert à la construction polémique et apologétique de Théophile. Dans son premier livre, Théophile énumère les absurdités des religions traditionnelles. Les histoires ridicules sur les dieux, leurs adultères, leur pédérastie, les Égyptiens qui adorent des animaux, les Grecs qui adorent des pierres et des morceaux de bois, donc tous les stéréotypes et les clichés que les chrétiens déploient lorsqu'ils parlent de la religion, des religions traditionnelles. Mais la théorie de Théophile sur les théoïs païens diffère en partie des autres auteurs chrétiens cités. Parce que l'auteur considère que les théoïs païens ne sont pas des dieux, mais des hommes. Les histoires de ces hommes sont racontées dans les ouvrages des poètes qui, eux, les poètes, sont inspirés par les démons. Et on le voit bien dans ce passage. Sans même le vouloir, les poètes avouent ne pas connaître le vrai, mais ils sont inspirés par les démons et gonflés d'orgueil par eux. C'est par eux qu'ils ont dit ce qu'ils disent. En vérité, les poètes, précisément Homère et Hésiode, inspirés par le muse, comme ils le déclarent, ont laissé parler leur imagination et leur égarement, non pas avec un esprit pur, mais avec un esprit de trompeur. Nous remarquons donc une différence dans la définition ontologique des théoïs païens et la déformation polémique de l'inspiration poétique par les muses qui a une tradition très, très ancienne chez les Grecs, justement, comme Théophile le sait très bien, à partir d'Homère et d'Hésiode. Théophile est donc conscient que cette tradition attribuait à Homère et Hésiode un rôle essentiel dans la représentation des divinités. Et c'est dans le cadre de ce discours sur le rapport entre daimones et poètes que Théophile questionne, l'organisation du monde divin païen. C'est aussi ce qui vous arrive, à vous qui étudiez les histoires et les généalogies des prétendus dieux, tas historias, kai genealogias, ton legomenon theon. Chaque fois que vous lisez leur génération, vous imaginez en effet qu'ils sont des hommes. Mais ensuite, vous les appelez dieux et leur rendez un culte sans jugement et sans comprendre qu'ils ont été engendrés, comme vous l'avez lu, qui sonnaient. Théophile insiste sur l'organisation humaine des dieux païens qui sont rangés en généalogie définissant leur descendance tout comme les êtres humains. On dirait que Théophile reconnaît que la société des dieux se reflète dans la société des hommes et vice-versa, et il en fait une preuve de la nature humaine et mortelle des théoïs. Le rôle des daimones est alors plus marginal dans le livre à Autolycos, puisque l'auteur choisit de fonder son argumentation sur une théorie qui a des bases sur la théorie évémériste. Dans les mêmes années, et c'est le dernier auteur que je vais analyser avec vous, on est vers 176-177, un autre auteur chrétien, dont la biographie est encore moins connue, Athénagore d'Athènes, adresse une presbéia, c'est-à-dire un discours d'ambassade, à Marc Aurèle et Commode. Il s'agit de la supplique au sujet des chrétiens. Le contexte est une nouvelle fois celui de la philosophie, puisque Marc Aurèle et Commode sont définis comme des philosophes. Des études récentes ont montré qu'il s'agit moins d'une supplique que d'un discours protreptique d'exhortation où l'auteur met en valeur les aspects positifs du christianisme et sa capacité de s'intégrer dans le panorama religieux de l'Empire. Athénagore est sans doute l'auteur chrétien du IIe siècle dont les réflexions sur l'architecture du monde divin sont les plus structurées. Il commence par la définition du Dieu chrétien, qui répond au principe de la théologie négative platonicienne, donc Dieu est bien sûr unique, il est incréé, éternel, invisible, impassible, incompréhensible, impossible à circonscrire, etc. Tout de suite après, Athénagore reconnaît toutefois que les chrétiens pensent qu'il existe aussi un Fils de Dieu. Mais il précise que le Fils de Dieu n'est pas conçu par les chrétiens à la manière des poètes qui créent des récits mythiques. Et Athénagore termine son discours en disant « Et notre théologie ne s'arrête même pas là. Nous disons qu'il existe aussi une foule d'anges, des serviteurs, pléthos angelon kai leiturgon, que les dieux créateurs et démiurges du monde, par l'intermédiaire de son verbe, a réparti et distribué dieneime kai dietaxen pour avoir soin des éléments, des cieux, de monde, de ce qu'il contient et de la belle ordonnance de ses réalités. L'urgence classificatoire qui anime les auteurs chrétiens des premiers siècles de notre ère est bien représentée par ce passage d'Athénagore. Les verbes diameno et diatasso expriment l'activité du Dieu créateur qui a classé les angeloi et les leiturgoi. Et le résultat de ce processus est une réalité ordonnée et bien classée, une eutaxia. Le regard de l'auteur se tourne ensuite vers le monde polythéiste et son organisation. Pour répondre à l'accusation que les chrétiens ne vénèrent pas les mêmes dieux que les autres et qu'ils sont donc des athées, c'était l'accusation courante portée contre les chrétiens à l'époque, Athénagore souligne le désaccord sur les dieux qui animent les Grecs eux-mêmes. Car ceux qui nous font le reproche d'athéisme, parce que nous n'avons pas les mêmes dieux que ceux qu'ils connaissent, ne sont même pas d'accord entre eux à propos des dieux. Les Athéniens rangent Stéléos et Métanire parmi les dieux, les Lacédémoniens Ménélas, pour qui sacrifient et organisent des fêtes. Ne supportant pas d'entendre ces noms, les habitants d'Ilion exaltent Hector, les Séens Aristée, considérant qu'il est antique à Zeus et à Apollon, et la liste est continue, moi j'ai coupé. Si j'en donne toute la liste, nous y sommes jusqu'à demain. Nous avons là l'un des arguments les plus répandus dans la polémique chrétienne contre les religions traditionnelles de l'Empire. Le désaccord et le chaos qui règnent chez les païens s'opposent à l'unicité et à la cohérence de la doctrine chrétienne. Bien que le ton soit ironique et que Athénagore joue avec la tradition littéraire, le passage met en évidence un aspect important de la structure du polythéisme. Une analyse des verbes utilisés par Athénagore s'avère dans ces cas très utile. D'une part, nous avons hydruo, donc installer, établir, de l'autre, on a sur, sacrifier, et ortazo, célébrer une fête. Athénagore utilise donc plusieurs expressions qui servent à désigner le fait d'élever un personnage local au rang des divinités. En outre, le passage se clôt sur le verbe catalego, donc énumérer, faire une liste, mapper, on pourrait dire. C'est sans doute le verbe qui exprime le mieux la fabrique chrétienne du paganisme que j'évoquais tout à l'heure. Construire l'image des religions des autres, cela nécessite de dresser des listes, d'établir des classements, d'énumérer des phénomènes et des pratiques religieuses afin de donner au public une image globale et, en l'occurrence, forcément négative, du polythéisme grec. Les usages d'ailleurs du verbe catalego chez les auteurs chrétiens de cette époque mériteraient une étude à part. Je souligne simplement que lorsque Clément d'Alexandrie, à la fin du IIe siècle, dédie un chapitre au culte à mystère dans son protreptique aux Hélènes, il utilise le verbe catalego justement pour afficher sa volonté de procéder de manière ordonnée et de parler de tous les cultes à mystère païens. La théorie sur les démons, à proprement parler, est évoquée plus loin. Après s'être servi des témoignages des philosophes pour montrer que les dieux païens n'étaient pas des dieux, Athénagore rapporte que Dieu avait créé des anges pour être les agents de la providence. Une partie de ces anges tombèrent dans le désir de jeunes filles et de ces unions naquirent ce qu'on appelle les géants. Comme l'a souligné très bien Bernard Poudreron, Athénagore ne fait que reprendre le récit de la chute des anges dans le livre d'Enoch. La catégorie des démons est donc composée d'anges déchus et des géants nés d'union avec les femmes mortelles. Après cette explication théorique qui essaye de concilier tradition philosophique platonicienne et tradition biblique, Athénagore revient au point de départ, à savoir l'explication de la puissance des idoles par les démons. Et nous le voyons dans le passage suivant. Et ceux qui entraînent les hommes auprès des idoles sont les démons évoqués plus haut, qui fondent sur le sang des victimes et qui les lèchent entièrement. Quant aux dieux dans lesquels la faute se complaît et dont le nom est donné aux images, ils ont été des hommes, comme il est possible de le savoir, d'après leur histoire. Et la preuve que les démons sont ceux qui usurpent leur nom est fournie par l'activité de chacun d'eux. Ce passage révèle que l'interprétation d'Athénagore de l'ontologie des dieux polythéistes est plus complexe de ce qu'elle apparaissait dans la première partie de la supplique. Dans les passages que nous venons de lire, nous trouvons deux discours imbriqués, la théorie démonique platonicienne et biblique et la théorie évamériste. Si les dieux polythéistes semblent avoir une quelconque forme de pouvoir, c'est parce qu'ils ont derrière eux l'action des démons. Mais les dieux polythéistes sont en réalité des hommes divinisés après leur mort. Chez Athénagore, cependant, la nécessité d'aborder la question des daimones vient non seulement des spéculations théologiques et philosophiques, mais aussi de la pratique, de l'action pratique et concrète sur le terrain de la puissance divine. L'auteur s'interroge sur l'action des démons et sur la puissance qui émane des statues des idoles. Pour expliquer sa théorie, Athénagore prend un exemple. Il se concentre, dirons-nous, sur un cas d'étude concernant trois personnages de son temps. L'auteur affirme que puisque le dieu chrétien ne fait que du bien, il faut chercher ailleurs les responsables de la puissance qui entoure les idoles. Et vous avez ici le passage en question. Voici la plus grande preuve fournie par les cités de Troas et de Parion que ceux qui agissent sont différents de ceux en l'honneur desquels les images sont dressées. Donc il y a deux formes d'action. L'une possède des images de Nérylinos, l'homme qui a vécu à notre époque, et Parion, des images d'Alexandre et de Protée. D'Alexandre, il y a encore sur l'agora et le tombeau et l'image. Quant au statut d'Alexandre de Protée, vous n'ignorez pas que ce dernier s'est précipité lui-même dans le feu aux Jeux olympiques. L'une est dite, elle aussi, rendre des oracles, et à l'autre, celle d'Alexandre, fatal Paris, très beau à voir et fou de femme, c'est un vers de l'Iliade, on consacre des sacrifices et des fêtes comme un dieu bienveillant. Même si Athénagore ne l'explicite pas en ces termes, la question qui se cache derrière ce passage concerne la nature, l'ontologie de ce personnage. Sont-ils des hommes? Sont-ils des dieux? Comme les honneurs qu'ils reçoivent laisseraient entendre? On remarquera qu'Athénagore montre bien le fonctionnement du polythéisme. Alexandre peut être considéré comme un dieu quand on lui offre des thuisiae et des eortai. Encore une fois, cette association est à la base du fonctionnement du polythéisme d'après Athénagore. La divination et les pratiques de guérison sont étaient un terrain privilégié de l'action des démons. Sur Nérylinos en particulier, nous n'avons pas d'autres informations, tandis que Protée et Alexandre ont été identifiés par les chercheurs aux personnages de deux pamphlets célèbres de Lucien de Samosate, La mort de Peregrinus et L'Alexandre ou le faux devin. S'il en est ainsi, nous voyons comment auteurs chrétiens, philosophes et rhéteurs partagent les mêmes sujets de discussion, les mêmes questionnements autour des pouvoirs divins et de leurs actions dans le monde, même si les procédés et les résultats de ces réflexions ne coïncident pas. Parce qu'à la même époque, lorsque Lucien de Samosate raconte ce que les gens pensaient à propos des pouvoirs de Peregrinus, il fait référence aux mêmes éléments, notamment aux daimones et aux oracles. Et vous le voyez dans ce texte tiré de la mort de Peregrinus. Et par Zeus, il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce que, dans la foule des insensés, ils s'en trouvent pour déclarer qu'ils ont été divinisés par lui de la fièvre carte et qu'ils ont rencontré dans l'obscurité le génie gardien, dit la traduction de la nuit, mais on a le texte grec qui dit « to daimoni, to nuxophulaki ». Ces abominables disciples fonderont même, j'imagine, un oracle et un sanctuaire à l'endroit du bûcher, déclarant que le grand Protée, le fils de Zeus, le premier à porter ce nom, avait le don de la prophétie. Certes, le sens donné par Lucien au mot daimones n'est pas celui que l'on trouve chez Athénagore, mais la critique de Lucien passe par la même mise en ridicule de la crédulité des individus de son époque et de la construction d'un nouveau culte. Une preuve ultérieure, et ce sera la dernière, des daimones comme terrain commun entre auteurs païens et chrétiens, nous est fournie par le philosophe platonicien Cels, qui vers 180 rédige un ouvrage anti-chrétien dont le titre est Aletheis Logos et dont nous lisons que des fragments cités dans la réfutation composée par Origène au milieu du IIIe siècle. Le contexte est encore celui du débat philosophique, mais cette fois, ce sont les croyances chrétiennes qui sont la cible de la polémique. Donc on renverse la perspective. Cels exhorte d'abord les chrétiens à fuir les goethes, les charlatans, et les eidola, donc les images trompeuses. Et vous le voyez dans le passage suivant, et donc c'est un fragment de Cels cité par Origène. « Tandis que vous adorez un homme plus misérable que les véritables fantômes eux-mêmes, et qui n'aime plus, même plus un fantôme, mais en réalité un mort, et que vous lui cherchez un père semblable à lui. » L'accusation de vénérer un homme mort, en plus, revient chez Cels, tout comme chez Théophile d'Antioche ou Athénagore d'Athènes. Dans le sillage de sa formation platonicienne, Cels refuse même d'accorder à Jésus le statut d'un daimon. Et vous le voyez dans le passage suivant, dit Cels, et certes, on les convainc manifestement de n'adorer ni un dieu, ni un démon, mais un mort. J'en viens aux conclusions. Nous avons parcouru des auteurs actifs à la même époque, dans des contextes géographiques différents, à Rome, Antioche, Athènes, peut-être Alexandrie pour Cels. Leurs œuvres ont montré une considération générale partagée sur l'action des démons, définie comme kakoi, poneroi, phaoloi, etc. Mais nous avons pu souligner l'existence de déclinations différentes de cette thématique démonologique qui comporte des regards variés sur le polythéisme grec du IIe siècle de notre ère. Vers 153, l'apologie de Justin utilise la clé de la mimésis pour construire une image du polythéisme comme l'effet de l'action de mauvais démons. Entre 165 et 172, Tacien met l'accent notamment sur l'organisation du pouvoir divin comme écho du monde politique romain, en opposant la monarchie divine chrétienne et le dysfonctionnement du polythéisme. Vers 170, l'évêque Théophile d'Antioche insiste sur le rôle que les démons ont joué dans l'inspiration des poètes, comme si les démons remplaçaient les muses et donc sur l'apparence humaine de la société des dieux païens. Vers 176-77, Athénagore d'Athènes concentre son attention sur les retombées pratiques de l'action des démons en expliquant les pouvoirs émanant des statues des idoles. Les buts de ces auteurs sont tout d'abord polémiques et identitaires, évidemment. Leurs propos montrent un effet de simplification, car dans leur perspective, les dieux des païens ne sont autres que de mauvais démons. Mais ce regard simplifié sur le monde divin polythéiste du IIe siècle montre aussi la volonté chrétienne de systématiser les religions traditionnelles pour les rendre aisément opposables à la religion chrétienne. Et je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.